Vous écoutez l'émission associativement vôtre sur RTVFM.
Bonjour, aujourd'hui donc, nous accueillons des représentants du comité écologique Comte Avant Tout. Nous avons avec nous Marie-Christine Lanaspez. Bonjour Marie-Christine.
Bonjour.
Et Pierre Pastor.
Bonjour à vous.
Vous allez nous présenter un petit peu l'histoire du comité écologique. Marie-Christine, je crois que vous avez une ancienneté qui va vous permettre de restituer un petit peu l'histoire de ce comité.
Alors, le comité écologique a été créé en 1976 par un groupe de lycéens et leurs professeurs de philosophie. Et puis, le temps n'était peut-être pas complètement à bien entendre l'écologie. Et le comité a été relancé en 1995 après les élections municipales où, avec d'autres personnes, on avait présenté une liste qui s'appelait « Liste écologique et associative ». Nous avons fait 5,5% de voix et on s'est dit « il ne faut pas s'arrêter là, il faut faire entendre l'écologie, il y a des gens qui sont prêts autour de nous ». Et donc, on a réinvesti un peu le comité écologique à ce moment-là. Et en essayant d'abord de créer le journal Le Libre Canard, qui est une publication trimestrielle gratuite, qui est déposée dans différents endroits. Voilà. Et puis, on a commencé à s'intéresser à différents sujets, mais on s'est vite aperçu que l'écologie, ça touchait absolument à tout. Chaque fois qu'on fait un choix dans le domaine public, ce qui intéresse les individus, les personnes, il y a une dimension écologique là-dedans. Donc voilà, on s'est structuré ensuite en groupe de travail.
Du coup, oui, vous avez une organisation donc, qui permet de travailler sur pas mal de domaines.
Oui.
Donc Pierre Pastor, je crois que vous êtes...
Oui, alors là, maintenant, on a, c'est pas exhaustif nos groupes de travail. C'est-à-dire qu'effectivement, parmi les militants du comité, nous avons des gens qui sont sur des centres d'intérêt différents. Tout le monde n'a pas tous les mêmes centres d'intérêt. Mais voilà, on a des centres d'intérêt différents. Et du coup, ça a amené, là, après plusieurs réunions, à décider d'un certain nombre de groupes qui vont être les groupes de travail principaux pour l'année qui vient. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en créer d'autres. Donc, ce qu'on a créé, c'est évidemment quelque chose autour du bio au niveau de l'alimentation et de la santé. Vous savez
ça
pourquoi
touche l'agriculture,
Voilà, c'est ça. Avec la question de l'agriculture bio, de comment est-ce qu'on peut développer, par exemple, là, on a une préoccupation, c'est comment on peut développer une alimentation bio, notamment pour nos cantines ici, parce que vous savez qu'il y a une obligation qui va être faite aux collectivités, qui commencent déjà d'ailleurs à avoir pris conscience de ça, et qui vont essayer de rechercher du bio. Donc voilà, il y a ça, avec tous les impacts que ça a sur la santé des enfants, puis sur la nôtre, et donc l'intérêt à bien manger. Il y a un deuxième groupe qui est sur la question d'éduquer, de éco-éduquer, avoir des comportements qui permettent justement d'être attentif aux questions d'écologie. Ça peut être dans tous les domaines, l'énergie, les déchets, voilà. C'est qu'est-ce qu'on peut faire justement pour avoir un comportement le plus adéquat possible par rapport à notre environnement.
Ça veut dire que vous intervenez auprès du public jeune ou dans les établissements scolaires peut-être ?
Oui, alors depuis 2010, nous intervenons auprès des élèves de CM1, CM2, de Carpentras et quelquefois certaines communes environnantes sur un sujet. Alors par exemple cette année, on va leur passer un petit film sur le réchauffement climatique, qu'est-ce que c'est que l'effet de serre qu'est-ce qui se passe quand il y a le réchauffement climatique, toutes les conséquences du réchauffement climatique et qu'est-ce qu'eux, ils peuvent faire là-dessus. C'est une séance avec des questions, des petites expériences, enfin, ça dépend des années. Bon, on a parlé de l'eau, des déchets, de la biodiversité, différentes choses.
Tout ce voilà. qui peut être abordé, effectivement, au niveau des jeunes et des enfants. Donc, on en était au deuxième groupe de travail.
Voilà. Ensuite, on en a trois qui sont... dans une des préoccupations du moment. C'est-à-dire, actuellement, notre territoire est en train de repenser la question du SCOT, c'est-à-dire l'organisation territoriale, etc. Et derrière, en découle notamment toutes les constructions, le plan de... locale d'urbanisme. Et donc ça, ça a un impact très important sur un certain nombre de domaines. Donc sur ce registre-là, et en accompagnant ce qui se fait sur notre territoire actuellement, hein, c'est dans ces mois-ci que c'est en train de se décider, qu'un certain nombre de décisions sont en train de s'élaborer, on a créé un groupe qui est sur habitat et cadre de vie, un groupe sur l'aménagement du territoire et le développement durable. Ça, c'est par rapport à un des documents de la COV, notamment. Et puis, sur l'écomobilité. Voilà, on a ces trois groupes-là qui sont sur cette réflexion de territoire. Et puis, enfin, on a deux autres groupes. Un par rapport à la pollution visuelle sur les panneaux de publicité.
Oui, sujet qu'on a entendu effectivement dans les médias par ailleurs. Hein.
Et puis, un groupe sur la biodiversité et sur la protection animale. Et ça, c'est on sait que beaucoup de gens sont très sensibles à ça et nous le sommes particulièrement pour essayer de maintenir cette biodiversité la plus intacte possible.
Bien, ben si vous voulez, on va faire une petite coupure musicale pour se retrouver ensuite.
RTV FM à Carpentras sur le 102.2. You know there's so much I don't know. I'm like a child at the window. I got so many questions.
Écologique compte avant tout. Donc nous avions un petit peu parlé de cette organisation fort intéressante avec des groupes de travail qui s'investissent sur énormément de sujets. Et maintenant on va peut-être parler un petit peu donc, de biodiversité, difficile de faire autrement quand on parle du comité écologique. Donc vous allez un petit peu nous dire comment vous vous engagez sur cette thématique-là.
Si vous voulez, la question de la biodiversité, on vient de voir des exemples qui sont qui vient de sortir dans l'actualité, qui est par exemple le fait que une grande partie des oiseaux domestiques, hein, ceux qu'on entendait dans nos jardins, etc., sont en train de disparaître, et en grande proportion et de manière très accélérée, c'est-à-dire sur une quinzaine d'années. Évidemment, ça c'est dû aux pesticides et à un certain nombre de pratiques qui font que les oiseaux ne peuvent pas nourrir leurs oisillons, ils ne trouvent pas assez de nourriture. Bon. Donc, si vous voulez, cette question de la biodiversité, j'ai cité cet exemple, mais il y en a 10 autres. Hein. On pourrait parler des abeilles, on pourrait parler de plein d'autres choses. Bon. Je ne veux pas insister sur ça. Mais en tout cas, c'est important par rapport à notre territoire. Parce que on disait tout à l'heure que dans les groupes de travail qu'on avait en interne, il y avait la question de l'aménagement et qu'on voit bien que la façon dont on pense notre aménagement impacte directement cette biodiversité. Dans les documents qui sont en train d'être produits par la COV, il y a la question de ce qu'ils appellent la trame verte et bleue, c'est-à-dire comment il y a une continuité de circulation des animaux, tous les animaux, ça peut aller des grenouilles jusqu'aux insectes, etc., à l'intérieur de notre territoire. Comment ils peuvent continuer à exister parce que ben, il n'y a pas une route qui vient couper telle circulation animale ou qu'il n'y a pas tel obstacle qui empêche le développement ou qu'on ne vient pas polluer une mare. Ou, voilà. Et donc ça a été réfléchi, à mon sens, insuffisamment intégré dans les documents. Ça a été réfléchi au fond et préparé par un naturaliste, mais ça a été peu pris en compte. Ça a été pris en compte, on va dire, pour que ce soit politiquement correct. C'est-à-dire pour que la région accepte le plan tel qu'il est en train d'être construit.
Il faut arriver à le faire passer après c'est pour ça. Que ça puisse c'est se ça. Concrétiser par des aménagements.
C'est et... ça. Donc on est passé juste pour les fourches caudines, ça n'a pas été très très développé. Et donc nous, on a un véritable intérêt à ce qu'on prenne un peu mieux en compte cette question-là. Alors on est sur la question de la biodiversité, là on est sur la faune ou la flore sauvage. Et puis on est aussi sur la protection animale, mais là je laisse Marie-Christine développer sur cet aspect.
Alors, la protection animale, c'est une façon de réfléchir différemment nos relations avec l'animal, à son bien-être. Et on retombe dans les problèmes de l'alimentation parce que l'élevage demande beaucoup de céréales, beaucoup d'eau, crée beaucoup de pollution. Et on peut se dire qu'il y a peut-être une autre façon d'envisager les choses. En mangeant moins de viande, par exemple, alors je vais me mettre à dos des agriculteurs, peut-être, mais c'est aussi une autre façon de penser le monde, une autre façon de penser nos relations avec l'animal, avec la nature en général, avec le vivant, j'ai envie de dire avec le vivant.
Le respect voilà. De l'être vivant, effectivement. On pourrait tout à fait se nourrir de végétaux.
Oui, on peut se nourrir de végétaux, très bien. Bon, puis je dirais qu'il y a aussi l'animal domestique, comment on se comporte avec les animaux domestiques. À la fois, on les chouchoute et à la fois, on les abandonne. On est un peu entre les deux, on laisse procréer, salir nos villes sans trop de soucis. Il y a tout un tas de choses à revoir sur nos relations. Et avec le vivant, voilà.
Oui, c'est vrai, quand on regarde la SPA, quand on voit tout ce que peut faire l'association Sac à Puce, par exemple, avec ses chats, ses animaux. Par ailleurs, vous êtes aussi présent sur un certain nombre, vous avez des engagements autres, au-delà, auprès de la FNE notamment.
Alors, FNE, c'est France Nature Environnement. Dans chaque département, il y a une association France Nature Environnement qui est regroupée après régionalement et nationalement. Et c'est aussi une façon de ne pas être tout seul sur notre petit bout de territoire et de travailler avec les autres. France Nature Environnement siège à travers les 20 associations qui font partie de France Nature Environnement. Il y a tout un tas de commissions où on parle d'écologie, qu'il s'agisse d'une carrière, qu'il s'agisse de l'implantation d'un supermarché, qu'il s'agisse... comme autour d'Orange, d'un projet de gazoduc extrêmement puissant, enfin où le gaz sera sous
haute pression.
Haute pression, merci. Voilà. Et donc, on réfléchit ensemble à tout un tas de choses et on essaye de se partager le travail pour que la parole de l'écologie, les motifs, les raisons de prendre des décisions avec un argument écologique soit vraiment réel.
Et puis sur un dernier sujet qui est celui du collectif, la FNE a créé le collectif qui a défendu le parc, la question du parc. Et donc ça, on va peut-être y revenir dans notre prochain sujet.
Dans notre partie suivante, voilà, oui, voilà. Tout à fait. On va faire une petite pause entre temps. Merci.
RTVFM, l'esprit jeune.
J'ai besoin de faire un break. Je veux traverser la mer et dégager de la cordillère. En regardant devant moi, pas de plafond dans le ciel. Chez toi, est-ce que tu vois le soleil? Rien ne peut briser ce lien. Je prends le train, celui qui traverse.
Aspez et Pierre Pastor, donc du comité écologique comptable en tout. Et nous avions donc évoqué un certain nombre de points sur la biodiversité, la protection animale, et on avait commencé un petit peu à évoquer la question du parc régional du Ventoux.
À ce propos, c'est important de bien dissocier les deux parce que quelquefois, il y a des confusions. Bon, ce n'est pas un grand jardin public, un parc naturel régional. Ce n'est pas non plus le parc national comme le parc de la Vanoise, qui est un parc de haute montagne où il y a toute une zone qui est gelée, on va dire, où on laisse la nature complètement libre. Mais un parc naturel régional, c'est un ensemble de communes qui décident de prendre leur avenir en main, en quelque sorte, de se concerter alors entre les politiques, entre les acteurs économiques du pays, entre les associations qui travaillent sur le territoire, entre les simples citoyens. Et ensemble, sans qu'il y ait aucune obligation, un parc ne peut rien imposer, il peut seulement décider ensemble de ce qu'on va faire. Voilà.
Et pourquoi ça fait si peur à certaines personnes de... Ça déclenche de telles polémiques.
Peut-être parce qu'un certain nombre de gens ont des a priori sur ça et puis qui pensent à l'organisation telle qu'avait été faite les premiers parcs. Et puis je pense que la conception maintenant est plus souple, elle est plus adaptée aussi à notre période où on sait que les fonds publics ne sont pas extensibles, etc. Et donc où on veut avoir une gestion qui soit une gestion efficace mais raisonnable. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un consensus et que les gens arrêtent d'avoir peur sur un certain nombre de domaines. On va continuer à chasser, on va continuer à se promener en quad, on va continuer, voilà, tout ça, ça va continuer à exister. Mais on va prendre un certain nombre de précautions ensemble pour préserver notre territoire, pour qu'il soit ouvert au tourisme, pour que des gens aient envie de venir sur nos zones, visiter nos villages, voir notre patrimoine, voilà, tout ça, ou parce qu'ils vont venir pour des questions culturelles. Et donc tout ça, il faut que ça continue à évoluer, et c'est à ces acteurs de trouver ensemble des points d'accord. À la fois sur le fond et à la fois sur les dépenses à engager pour que justement y ait pas, on ne recrée pas à propos du parc le fameux millefeuille. Voilà.
Et aujourd'hui, on en est où par rapport à ce parc en fait ?
Alors, tout à l'heure, on parlait de la FNE. Et donc le parc est en train d'avancer et il y a une décision qui a été prise par Renaud Muselier qu'il fallait continuer à avancer, il l'a signifié publiquement. Et donc le travail se poursuit, il y a un certain nombre de commissions qui ont été mises en place auxquelles nous participons justement avec la FNE ou nous participons au titre du comité. Je donne un ou deux exemples, il y a évidemment les questions d'agriculture, il y a les questions de paysage, voilà, je pourrais en citer d'autres, voilà, et donc ce sont les acteurs qui se retrouvent dans ces commissions et qui pilotés par un cabinet spécialisé, mais qui donc font un certain nombre de propositions qui sont retenues et qui sont en train d'être listées, et donc chacun peut venir participer à ce travail, voilà, de façon à ce que le consensus soit le plus général possible et le plus accepté possible par tous ceux qui ont un intérêt à ça.
Un dossier qui devrait aboutir bientôt, alors.
Là, il y a un rythme qui est un rythme... voilà, c'est-à-dire le président Muselier a indiqué que une fois que la charte serait rédigée, voilà, qu'il prendrait une décision en 2019.
D'accord. Alors, à une autre échelle, on va se mettre à l'échelle de la ville de Carpentras. On vous a vu hier lors de la venue du journaliste Olivier Razemont qui s'intéresse plus particulièrement donc à l'environnement urbain. Donc vous étiez présent sur cette rencontre qui était fort intéressante puisque la ville de Carpentras comme deux autres villes de Vaucluse, Orange et Cavaillon, ont été repérées pour pouvoir bénéficier du plan national cœur de ville avec des aides financières qui vont les accompagner. Et du coup, il y a des échanges qui se sont instaurés par rapport à cette question-là. Votre avis là-dessus ?
Alors, le thème de la rencontre d'hier, c'était la désertification des villes. Comment la France a elle-même désertifié ses villes ? En fait, on s'aperçoit que les villes ont des populations moins riches, on va dire, que les villages, qu'il y a des centres-villes qui étaient beaucoup à restaurer, que se pose le problème de la circulation en ville, du commerce, puisque les grandes surfaces ont quand même beaucoup pompé la clientèle des petits commerces, et que tout ça est bien dommage, parce que les centres-villes, c'est quand même l'endroit où on se rencontre, où on trouve ce dont on a besoin, où on va à une terrasse de café. Et donc, on a réfléchi à tout ça, voilà.
Et du coup, ça nous a amené à parler évidemment du fait que Carpentras avait été accepté dans ce plan qui est un plan national qui s'appelle Cœur de Ville. Et donc, Carpentras va pouvoir bénéficier des fonds dont vous parlez pour mener un certain nombre d'initiatives à bien. Notamment, le maire nous a annoncé que ça permettrait de poursuivre ce qui avait été fait à l'Hôtel Dieu et que ça permettrait de terminer les travaux qui étaient entamés. Il nous a aussi parlé de deux autres axes. Est-ce que ce qu'on les évoque.
En tous les cas, ils semblaient bien à l'écoute des différentes propositions qui ont émané du public. Ils semblaient au moins très ouverts. Après, bon, le résultat, on ne sait pas. Il y a des efforts qui ont été faits, tous n'ont pas payé. Bon, il y a quand même des choses qui sont très positives à noter à l'actif de la ville de Carpentras, avec quand même un certain nombre de places de stationnement gratuites. C'est quand même quelque
alors,
chose qui
oui,
est
ça,
intéressant,
ça,
que toutes les villes n'ont pas en tout cas.
Oui, c'est ça. C'est
si
ça. C'est-à-dire que je pense même qu'au niveau du département, on est une des exceptions d'avoir.
Bien situé.
Voilà, on a pas mal de parking, de places de stationnement. Il va encore s'en créer, puisqu'il va s'en créer au terrain Rey. Il va y en avoir de nouvelles. Il va y avoir aussi des places privées qui vont être créées dans l'hypercentre. Donc, voilà, je pense que Carpentras, de ce point de vue, est bien doté. Et surtout, voilà, le fait qu'il y ait cette gratuité et puis les zones bleues qui ont été instituées font qu'il y a une réponse. Mais voilà, ça ne peut pas être par rapport à ces centres-villes la seule réponse. Il faut trouver...
C'est-à-dire qu'il reste
aussi les moyens.
Dégradé, il reste des commerces quand même qui sont fermés.
Puis, voilà. Faire venir des habitants parce qu'il y a beaucoup de logements libres.
Et voilà. Des habitants.
C'est bien dommage
partent,
quand on cherche un logement de se dire qu'il y a beaucoup de logements libres.
C'est vrai que le taux de vacances des logements pose question quand même. Près de 13% quand même des logements qui sont vacants.
C'est ça. Et donc il faut que peu à peu il y ait un réinvestissement du centre-ville, qu'il y ait un peu plus d'habitants au centre-ville, qu'on pense aussi aux façons de déambuler, de venir dans le centre-ville, de pour que ça donne envie aux gens de venir faire leurs achats ou de venir faire leurs démarches administratives.
En tous les cas, ça semble une préoccupation du maire. Il était très à l'écoute. Bon, après...
J'ai vu que notamment par rapport à l'intervenant, il a pris quelques notes sur certaines suggestions parce que la question, ce n'est pas juste de faire le constat, c'est aussi de trouver un certain nombre de pistes qui permettent d'enrayer ça et de voir d'inverser. Et certaines villes en France l'ont fait.
Oui,
donc il n'y a pas de raison que Carpentras ne poursuive pas les efforts entamés et n'aille pas au bout de ça.
Donc c'est important que vous y soyez, c'est important que le maire soit également présent.
Hein. Oui, il a été très présent sur cette question.
C'était très intéressant. Voilà, bon, à présent notre rencontre se termine. Donc si vous voulez retrouver le comité écologique, je sais que vous êtes en train de reconstruire un site, mais en tapant comité écologique compte avant tout, on arrivera directement pour avoir tous les renseignements.
C'est ça,
possibles.
Même si le site évolue, l'adresse reste valable et ça permettra de retrouver
toutes vos activités,
toutes les activités,
travail,
un peu tout ce qu'on vous a dit. Voilà.
Eh bien, Marie-Christine et Pierre, on vous remercie, on vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci beaucoup, au revoir.
Au revoir.
RTVFM, première radio locale associative de Carpentras. You're the special someone who makes me wanna give in. You're the special someone who makes me wanna give in. You're the special someone who makes me wanna give in. You're the special someone who makes me wanna give in. You're that special someone, someone. You're that special someone who makes me wanna give in. You're that special someone who makes me wanna give in. You're that special someone who makes me wanna give in. You're that special someone who makes me wanna makes me wanna. You're that special someone who makes me wanna give in. You're that special someone who makes me wanna give in. You're that special someone who makes me wanna give in. You're that special someone who makes me wanna makes me wanna. So many people in this world will bring you down, but now at last I know that things are coming around. I've been a stranger to the deep in love inside, but you're that special someone. My life's been dancing to the beat of just one heart. I get so close to love and life will tear us apart. Start. You're the special someone.
Makes me wanna give it.